Première partie, chapitre 12. Je crois pourtant que, précisément ce matin-là, et probablement pour la seule fois, Robert s'évada un instant hors de la femme, que, tendresse après tendresse, il avait lentement composé, et aperçut tout d'un coup, à quelque distance de lui, une autre Rachel, un double d'elle, mais absolument différent et qui figurait une simple petite grue. Quittant le beau verger, nous allions prendre le train pour rentrer à Paris, quand, à la gare, Rachel, marchant à quelques pas de nous, fut reconnue et interpellée par de vulgaires poules, comme elle était, et qui d'abord, la croyant seule, lui crièrent « Tiens, Rachel, tu montes avec nous ? Lucienne et Germaine sont dans le wagon, et il y a justement encore de la place. Viens, on ira ensemble au skating !» et s'apprêtait à lui présenter deux calicots, leurs amants, qui les accompagnaient, quand, devant l'air légèrement gêné de Rachel, elles levèrent curieusement les yeux un peu plus loin, nous aperçurent, et, s'excusant, lui dirent adieu, en recevant d'elle un adieu aussi, un peu embarrassé, mais amical. C'étaient deux pauvres petites poules, avec des collets en fausse loutre, ayant à peu près l'aspect qu'avait Rachel quand Saint-Loup l'avait rencontrée la première fois. Il ne les connaissait pas, ni leur nom, et voyant qu'elles avaient l'air très liées avec son amie, eut l'idée que celle-ci avait peut-être eu sa place, l'avait peut-être encore, dans une vie insoupçonnée de lui, fort différente de celle qu'il menait avec elle. Une vie où on avait les femmes pour un louis, tandis qu'il donnait plus de 100 000 francs par an à Rachel. Il ne fit pas qu'entrevoir cette vie, mais aussi, au milieu, une Rachel tout autre que celle qu'il connaissait. Une Rachel pareille à ses deux petites poules. Une Rachel à 20 francs. En somme, Rachel s'était un instant dédoublée pour lui. Il avait aperçu à quelque distance de sa Rachel la Rachel petite poule, la Rachel réelle, à supposer que la Rachel poule fût plus réelle que l'autre. Robert eut peut-être l'idée alors que cet enfer où il vivait, avec la perspective et la nécessité d'un mariage riche, d'une vente de son nom, pour pouvoir continuer à donner 100 000 francs par an à Rachel, il aurait peut-être pu s'en arracher aisément et avoir les faveurs de sa maîtresse, comme ses calicots, celles de leur grue, pour peu de choses. Mais comment faire? Elle n'avait démérité en rien. Moins comblée, elle serait moins gentille, ne lui dirait plus, ne lui écrirait plus de ces choses qui le touchaient tant, et qu'il citait avec un peu d'ostentation à ses camarades, en prenant soin de faire remarquer combien c'était gentil d'elle, mais en omettant qu'il l'entretenait fastueusement, même qu'il lui donnât quoi que ce fût, que ses dédicaces sur une photographie ou cette formule pour terminer une dépêche, c'était la transmutation sous sa forme la plus réduite et la plus précieuse de 100 000 francs. Et s'il se gardait de dire que ces rares gentillesses de Rachel étaient payées par lui, il serait faux. Et pourtant, ce raisonnement simpliste, on en use absurdement pour tous les amants qui casquent, pour tant de maris. De dire que c'était par amour propre, par vanité. Saint-Loup était assez intelligent pour se rendre compte que tous les plaisirs de la vanité, il les aurait trouvés aisément et gratuitement dans le monde, grâce à son grand nom, à son joli visage, et que sa liaison avec Rachel, au contraire, était ce qui l'avait mis un peu hors du monde, faisait qu'il y était moins coté. Non, cet amour-propre à vouloir paraître, à voir gratuitement les marques apparentes de prédilection de celle qu'on aime, c'est simplement un dérivé de l'amour, le besoin de se représenter à soi-même et aux autres comme aimé par ce qu'on aime tant. Rachel se rapprocha de nous, laissant les deux poules monter dans leur compartiment. Mais non moins que la fausse loutre de celle-ci et l'air guindé des calicots, les noms de Lucienne et de Germaine maintinrent un instant la Rachel nouvelle. Un instant, il imagina une vie de la place Pigalle, avec des amis inconnus, des bonnes fortunes sordides, des après-midi de plaisir naïf, promenades ou parties de plaisir dans ce Paris, où l'ensoleillement des rues depuis le boulevard de Clichy ne lui sembla pas le même que la clarté solaire où il se promenait avec sa maîtresse, mais devoir être autre, car l'amour et la souffrance qui fait un avec lui ont, comme l'ivresse, le pouvoir de différencier pour nous les choses. Ce fut presque comme un Paris inconnu au milieu de Paris même qu'il soupçonna. Sa liaison lui apparut comme l'exploration d'une vie étrange, car si avec lui Rachel était un peu semblable à lui-même, pourtant c'était bien une partie de sa vie réelle que Rachel vivait avec lui, même la partie la plus précieuse à cause des sommes folles qu'il lui donnait, la partie qui la faisait tellement envier des amis et lui permettrait un jour de se retirer à la campagne ou de se lancer dans les grands théâtres après avoir fait sa pelote. Robert aurait voulu demander à son ami qui étaient Lucienne et Germaine, les choses qu'elles lui eussent dites si elle était montée dans leur compartiment, à quoi elles eussent ensemble, elle et ses camarades, passé une journée qui eût peut-être fini comme divertissement suprême après les plaisirs du skating à la taverne de l'Olympia, si lui, Robert et moi, n'avions pas été présents. Un instant, les abords de l'Olympia, qui jusque-là lui avaient paru assommants, excitèrent sa curiosité, sa souffrance, et le soleil de ce jour printanier donnant dans la rue Caumartin, où, peut-être, si elle n'avait pas connu Robert, Rachel fût allée tantôt et eût gagné un louis, lui donnèrent une vague nostalgie. Mais à quoi bon poser à Rachel des questions quand il savait d'avance que la réponse serait ou un simple silence, ou un mensonge, ou quelque chose de très pénible pour lui, sans pourtant lui décrire rien. Les employés fermaient les portières. Nous montâmes vite dans une voiture de première. Les perles admirables de Rachel rapprirent à Robert qu'elle était une femme d'un grand prix. Il la caressa, la fit rentrer dans son propre cœur où il la contempla, intériorisée, comme il avait toujours fait jusqu'ici, sauf pendant ce bref instant où il l'avait vue sur une place Pigalle de peintre impressionniste. Et le train partit. C'était du reste vrai qu'elle était une littéraire. Elle ne s'interrompit de me parler livres, art nouveau, tolstoïsme, que pour faire des reproches à Saint-Loup qu'il but trop de vin. « Ah, si tu pouvais vivre un an avec moi, on verrait. Je te ferais boire de l'eau et tu serais bien mieux. »« C'est entendu, partons. »« Mais tu sais bien que j'ai beaucoup à travailler. » Car elle prenait au sérieux l'art dramatique. « D'ailleurs, que dirait ta famille ?» Et elle se mit à me faire sur sa famille des reproches qui me semblèrent du reste fort justes et auxquels Saint-Loup, tout en désobéissant à Rachel sur l'article du champagne, adhéra entièrement. Moi, qui craignais tant le vin pour Saint-Loup et sentais la bonne influence de sa maîtresse, j'étais tout prêt à lui conseiller d'envoyer promener sa famille. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme parce que j'eus l'imprudence de parler de Dreyfus. « Le pauvre martyr !» dit-elle en retenant un sanglot. « Ils le feront mourir là-bas. » « Tranquillise-toi, Zézette, il reviendra, il sera acquitté, l'erreur sera reconnue. Mais avant cela, il sera mort. Enfin, au moins ses enfants porteront un nom sans tache. Mais pensez à ce qu'il doit souffrir, c'est ce qui me tue. Et croyez-vous que la mère de Robert, une femme pieuse, dit qu'il faut qu'il reste à l'île du diable, même s'il est innocent? N'est-ce pas une horreur ?»«
Oui, c'est absolument vrai. » « Elle le dit, » affirma Robert. « C'est ma mère, je n'ai rien à objecter. Mais il est bien certain qu'elle n'a pas la sensibilité de Zézette. » En réalité, ces déjeuners,
chose si gentille, se passait toujours fort mal. Car dès que Saint-Loup se trouvait avec sa maîtresse dans un endroit public, il s'imaginait qu'elle regardait tous les hommes présents. Il devenait sombre, elle s'apercevait de sa mauvaise humeur, qu'elle s'amusait peut-être à attiser, mais que, plus probablement, par amour-propre bête, elle ne voulait pas, blessée par son ton, avoir l'air de chercher à désarmer. Elle faisait semblant de ne pas détacher ses yeux de tel ou tel homme, et d'ailleurs, ce n'était pas toujours par pur jeu. En effet, que le monsieur, qui au théâtre ou au café se trouvait leur voisin, que tout simplement le cocher du fiacre qu'ils avaient pris eût quelque chose d'agréable, Robert, aussitôt averti par sa jalousie, l'avait remarqué avant sa maîtresse. Il voyait immédiatement en lui un de ces êtres immondes dont il m'avait parlé à Balbec, qui pervertissent et déshonorent les femmes pour s'amuser. Il suppliait sa maîtresse de détourner de lui ses regards et par là même le lui désignait. Or, quelquefois, elle trouvait que Robert avait eu si bon goût dans ses soupçons qu'elle finissait même par cesser de le taquiner pour qu'il se tranquillisât et consentit à aller faire une course pour qu'il lui laissât le temps d'entrer en conversation avec l'inconnu, souvent de prendre rendez-vous, quelquefois même d'expédier une passade. Je vis bien, dès notre entrée au restaurant, que Robert avait l'air soucieux. C'est que Robert avait immédiatement remarqué, ce qui nous avait échappé à Balbec, que, au milieu de ses camarades vulgaires, Aimé, avec un éclat modeste, dégageait bien involontairement le romanesque qui émane pendant un certain nombre d'années de cheveux légers et d'un nez grec, grâce à quoi il se distinguait au milieu de la foule des autres serviteurs. Ceux-ci, presque tous assez âgés, offraient des types extraordinairement laids et accusés de curés hypocrites, de confesseurs papelards, plus souvent d'anciens acteurs comiques dont on ne retrouve plus guère le front en pain de sucre que dans les collections de portraits exposés dans le foyer humblement historique de petits théâtres désuets, où ils sont représentés jouant des rôles de valets de chambre ou de grands pontifes, et dont ce restaurant semblait, grâce à un recrutement sélectionné et peut-être à un mode de nomination héréditaire, conserver le type solennel en une sorte de collège augural. Malheureusement, Aimé nous ayant reconnus, ce fut lui qui vint prendre notre commande, tandis que s'écoulait vers d'autres tables le cortège des grands prêtres d'opérette. Aimé s'informa de la santé de ma grand-mère, je lui demandai des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Il me les donna avec émotion, car il était homme de famille. Il avait un air intelligent, énergique, mais respectueux. La maîtresse de Robert se mit à le regarder avec une étrange attention. Mais les yeux enfoncés d'Aimé, auxquels une légère myopie donnait une sorte de profondeur dissimulée, ne trahirent aucune impression au milieu de sa figure immobile. Dans l'hôtel de province, où il avait servi bien des années avant de venir à Balbec, le joli dessin, un peu jauni et fatigué maintenant, qu'était sa figure, et que pendant tant d'années, comme telle gravure représentant le prince Eugène, on avait toujours vu à la même place, au fond de la salle à manger presque toujours vide, n'avait pas dû attirer de regards bien curieux. Il était donc resté longtemps, sans doute faute de connaisseurs, ignorant de la valeur artistique de son visage, et d'ailleurs peu disposé à la faire remarquer, car il était d'un tempérament froid. Tout au plus, quelques parisiennes de passage, s'étant arrêtées une fois dans la ville, avaient levé les yeux sur lui, lui avaient peut-être demandé de venir la servir dans sa chambre avant de reprendre le train, et dans le vide translucide, monotone et profond de cette existence de bon mari et de domestique de province, avait enfoui le secret d'un caprice sans lendemain que personne n'y viendrait jamais découvrir. Pourtant, Aimé dut s'apercevoir de l'insistance avec laquelle les yeux de la jeune artiste restaient attachés sur lui. En tout cas, Elle n'échappa pas à Robert, sur le visage duquel je voyais s'amasser une rougeur, non pas vive, comme celle qui l'empourprait s'il avait une brusque émotion, mais faible, émiettée.
Ce maître d'hôtel est très intéressant, Zézette ?
Demanda-t-il à sa maîtresse, après avoir renvoyé Aimé assez brusquement.
On dirait que tu veux faire une étude d'après lui.
Voilà que ça commence, j'en étais sûre.
Mais qu'est-ce qui commence, mon petit ? Si j'ai eu tort, je n'ai rien dit, je veux bien. Mais j'ai tout de même le droit de te mettre en garde contre ce larbin que je connais de Balbec. Sans cela, je m'en ficherais pas mal. Et qui est une des plus grandes fripouilles que la terre ait jamais portée.
Elle parut vouloir obéir à Robert et engagea avec moi une conversation littéraire à laquelle il se mêla. Je ne m'ennuyais pas en causant avec elle, car elle connaissait très bien les œuvres que j'admirais et était à peu près d'accord avec moi dans ses jugements. Mais comme j'avais entendu dire par Madame de Villeparisis qu'elle n'avait pas de talent, je n'attachais pas grande importance à cette culture. Elle plaisantait finement de mille choses et eût été vraiment agréable si elle n'eût pas affecté, d'une façon agaçante, le jargon des cénacles et des ateliers. Elle l'étendait d'ailleurs à tout, et, par exemple, ayant pris l'habitude de dire d'un tableau, s'il était impressionniste, ou d'un opéra, s'il était wagnérien, « Ah, c'est bien !» Un jour qu'un jeune homme l'avait embrassée sur l'oreille et que, touchée qu'elle simula un frisson, il faisait le modeste, elle dit « Si, comme sensation, je trouve que c'est bien !» Mais surtout ce qui m'étonnait, c'est que les expressions propres à Robert, et qui d'ailleurs étaient peut-être venues à celui-ci de littérateurs connus par elle, elle les employait devant lui, lui devant elle, comme si c'eût été un langage nécessaire, et sans se rendre compte du néant d'une originalité qui est à tous. Elle était, en mangeant, maladroite de ses mains à un degré qui laissait supposer qu'en jouant la comédie sur la scène, elle devait se montrer bien gauche. Elle ne retrouvait de la dextérité que dans l'amour, par cette touchante préscience des femmes qui aiment tant le corps de l'homme qu'elle devine du premier coup ce qui fera le plus de plaisir à ce corps, pourtant si différent du leur. Je cessai de prendre part à la conversation quand on parla théâtre, car sur ce chapitre, Rachel était trop malveillante. Elle prit, il est vrai, sur un ton de commisération, contre Saint-Loup, ce qui prouvait qu'elle l'attaquait souvent devant lui, la défense de la Berma, en disant « Oh non, c'est une femme remarquable !» Évidemment, ce qu'elle fait ne nous touche plus, cela ne correspond plus tout à fait à ce que nous cherchons, mais il faut la placer au moment où elle est venue, on lui doit beaucoup. Elle a fait des choses bien, tu sais. Et puis, c'est une si brave femme, elle a un si grand cœur. Elle n'aime pas naturellement les choses qui nous intéressent, mais elle a eu, avec un visage assez émouvant, une jolie qualité d'intelligence. Les doigts n'accompagnent pas de même tous les jugements esthétiques. S'il s'agit de peinture, pour montrer que c'est un beau morceau, en pleine pâte, on se contente de faire saillir le pouce. Mais la jolie qualité d'esprit est plus exigeante. Il lui faut deux doigts, ou plutôt deux ongles, comme s'il s'agissait de faire sauter une poussière. Mais, cette exception faite, la maîtresse de Saint-Loup parlait des artistes les plus connus sur un ton d'ironie et de supériorité qui m'irritait, parce que je croyais, faisant erreur en cela, que c'était elle qui leur était inférieure. Elle s'aperçut très bien que je devais la tenir pour une artiste médiocre et avoir au contraire beaucoup de considération pour ceux qu'elle méprisait. Mais elle ne s'enfroissa pas, parce qu'il y a dans le grand talent non reconnu encore, comme était le sien, si sûr qu'il puisse être de lui-même, une certaine humilité, et que nous proportionnons les égards que nous exigeons, non à nos dons cachés, mais à notre situation acquise. Je devais, une heure plus tard, voir au théâtre la maîtresse de Saint-Loup montrer beaucoup de déférence envers les mêmes artistes sur lesquels elle portait un jugement si sévère. Aussi, si peu de doute qu'eût dû lui laisser mon silence, n'en insista-t-elle pas moins pour que nous dînions le soir ensemble, assurant que jamais la conversation de personne ne lui avait autant plu que la mienne. Si nous n'étions pas encore au théâtre, où nous devions aller après le déjeuner, nous avions l'air de nous trouver dans un foyer qui illustrait des portraits anciens de la troupe. Tant les maîtres d'hôtel avaient de ces figures qui semblent perdues avec toute une génération d'artistes hors ligne du Palais-Royal. Ils avaient l'air d'académiciens aussi. Arrêtés devant un buffet, l'un examinait des poires avec la figure et la curiosité désintéressée qu'eût pu avoir M. de Jussieu. D'autres, à côté de lui, jetaient sur la salle les regards empreints de curiosité et de froideur que des membres de l'Institut, déjà arrivés, jettent sur le public, tout en échangeant quelques mots qu'on n'entend pas. C'étaient des figures célèbres parmi les habitués. Cependant, on s'en montrait un nouveau, au nez raviné, à la lèvre papelarde, qui avait l'air d'église et entrait en fonction pour la première fois. Et chacun regardait avec intérêt le nouvel élu. Mais bientôt, peut-être pour faire partir Robert afin de se trouver seul avec Aimé, Rachel se mit à faire de l'œil à un jeune boursier qui déjeunait à une table voisine avec un ami. Zézette, je te prierai de ne pas regarder ce jeune homme comme cela, dit Saint-Loup, sur le visage de qui les hésitantes rougeurs de tout à l'heure s'étaient concentrées en une nuée sanglante qui dilatait et fonçait les traits distendus de mon ami. Si tu dois nous donner un spectacle, j'aime mieux déjeuner de mon côté et aller t'attendre au théâtre. À ce moment, on vint dire à Aimé qu'un monsieur le priait de venir lui parler à la portière de sa voiture. Saint-Loup, toujours inquiet et craignant qu'il ne s'agît d'une commission amoureuse à transmettre à sa maîtresse, regarda par la vitre et aperçut au fond de son coupé, les mains serrées dans des gants blancs rayés de noir, une fleur à la boutonnière, Monsieur de Charlus. « Tu vois, me dit-il à voix basse, ma famille me fait traquer jusqu'ici. Je t'en prie, moi je ne peux pas. Mais puisque tu connais bien le maître d'hôtel qui va sûrement nous vendre, demande-lui de ne pas aller à la voiture. Au moins que ce soit un garçon qui ne me connaisse pas. Si on dit à mon oncle qu'on ne me connaît pas, je sais comment il est, il ne viendra pas voir dans le café. Il déteste ces endroits-là. N'est-ce pas tout de même dégoûtant qu'un vieux coureur de femmes comme lui, qui n'a pas d'ételé, me donne perpétuellement des leçons et vienne m'espionner ? Aimé, ayant reçu mes instructions, envoya un de ses commis qui devait dire qu'il ne pouvait pas se déranger et que, si on demandait le marquis de Saint-Loup, on dise qu'on ne le connaissait pas. La voiture repartit bientôt. Mais la maîtresse de Saint-Loup, qui n'avait pas entendu nos propos chuchotés à voix basse et avait cru qu'il s'agissait du jeune homme à qui Robert lui reprochait de faire de l'œil, éclata en injures. « Allons bon, c'est ce jeune homme maintenant. Tu fais bien de me prévenir. Oh, c'est délicieux de déjeuner dans ces conditions. Ne vous occupez pas de ce qu'il dit. Il est un peu piqué, et surtout... » ajouta-t-elle en se tournant vers moi. « Il dit cela parce qu'il croit que ça fait élégant, que ça fait grand seigneur d'avoir l'air jaloux. » Et elle se mit à donner avec ses pieds et avec ses mains des signes d'énervement. « Mais Zézette, c'est pour moi que c'est désagréable. Tu nous rends ridicules aux yeux de ce monsieur, qui va être persuadé que tu lui fais des avances, et qui m'a l'air tout ce qu'il y a de pis. Moi, au contraire, il me plaît beaucoup. D'abord, il a des yeux ravissants, et qui ont une manière de regarder les femmes. On sent qu'il doit les aimer. Tais-toi au moins jusqu'à ce que je sois partie, si tu es folle, s'écria Robert. « Garçon, mes affaires !» Je ne savais si je devais le suivre. « Non, j'ai besoin d'être seule.
me dit-il sur le même ton dont il venait de parler à sa maîtresse, et comme s'il était tout fâché contre moi. Sa colère était comme une même phrase musicale sur laquelle, dans un opéra, se chantent plusieurs répliques, entièrement différentes entre elles, dans le livret, de sens et de caractère, mais qu'elle réunit par un même sentiment. Quand Robert fut parti, sa maîtresse appela Aimée et lui demanda différents renseignements. Elle voulait ensuite savoir comment je le trouvais. « Il a un regard amusant, n'est-ce pas ? Vous comprenez, ce qui m'amuserait, ce serait de savoir ce qu'il peut penser, d'être souvent servi par lui, de l'emmener en voyage. Mais pas plus que ça. Si on était obligé d'aimer tous les gens qui vous plaisent, ce serait au fond assez terrible. Robert a tort de se faire des idées. Tout ça, ça se forme dans ma tête. Robert devrait être bien tranquille. » Elle regardait toujours Aimée. « Tenez, regardez les yeux noirs qu'il a. Je voudrais savoir ce qu'il y a dessous. » Bientôt, on vint lui dire que Robert la faisait demander dans un cabinet particulier, où, en passant par une autre entrée, il était allé finir de déjeuner sans retraverser le restaurant. Je restai ainsi seul. Puis, à mon tour, Robert me fit appeler. Je trouvai sa maîtresse étendue sur un sofa, riant sous les baisers, les caresses qu'il lui prodiguait. Il buvait du champagne. « Bonjour, vous !» lui dit-elle, car elle avait appris récemment cette formule qui lui paraissait le dernier mot de la tendresse et de l'esprit. « J'avais mal déjeuné, j'étais mal à l'aise, et sans que les paroles de Legrandin y fussent pour quelque chose, je regrettais de penser que je commençais dans un cabinet de restaurant et finirait dans des coulisses de théâtre cette première après-midi de printemps. Après avoir regardé l'heure pour voir si elle ne se mettrait pas en retard, elle m'offrit du champagne, me tendit une de ses cigarettes d'Orient et détacha pour moi une rose de son corsage. Je me dis alors, je n'ai pas trop à regretter ma journée. Ces heures passées auprès de cette jeune femme ne sont pas perdues pour moi, puisque par elle j'ai, chose gracieuse et qu'on ne peut payer trop cher, une rose, une cigarette parfumée, une coupe de champagne. Je me le disais parce qu'il me semblait que c'était douter d'un caractère esthétique et par là justifier, sauver ces heures d'ennui. Peut-être aurais-je dû penser que le besoin même que j'éprouvais d'une raison qui me consola de mon ennui suffisait à prouver que je ne ressentais rien d'esthétique. Quant à Robert et à sa maîtresse, ils avaient l'air de ne garder aucun souvenir de la querelle qu'ils avaient eue quelques instants auparavant, ni que j'y eusse assisté. Ils n'y firent aucune allusion, ils ne lui cherchèrent aucune excuse, pas plus qu'au contraste que faisait avec elle leur façon de maintenant. À force de boire du champagne avec eux, je commençais à éprouver un peu de l'ivresse que je ressentais à Rivebelle, probablement pas tout à fait la même. Non seulement chaque genre d'ivresse, de celle que donne le soleil ou le voyage, à celle que donne la fatigue ou le vin, mais chaque degré d'ivresse, et qui devrait porter une cote différente, comme celle qui indique les fonds dans la mer. Met à nu en nous, exactement à la profondeur où il se trouve, un homme spécial. Le cabinet où se trouvait Saint-Loup était petit, mais la glace unique qui le décorait était de telle sorte qu'elle semblait en réfléchir une trentaine d'autres le long d'une perspective infinie, et l'ampoule électrique, placée au sommet du cadre, devait le soir, quand elle était allumée, suivie de la procession d'une trentaine de reflets pareils à elle-même, donner au buveur, même solitaire, l'idée que l'espace autour de lui se multipliait en même temps que ses sensations exaltées par l'ivresse, et qu'enfermé seul dans ce petit réduit, il régnait pourtant sur quelque chose de bien plus étendu, en sa courbe indéfinie et lumineuse qu'une allée du jardin de Paris. Or, étant alors à ce moment-là ce buveur, tout d'un coup, le cherchant dans la glace, je l'aperçus
hideux, inconnu, qui me regardait. La joie de l'ivresse était plus forte que le dégoût. Par gaieté ou bravade, je lui souris. Et en même temps, il me souriait. Et je me sentais tellement sous l'empire éphémère et puissant de la minute où les sensations sont si fortes que je ne sais si ma seule tristesse ne fut pas de penser que le moi affreux que je venais d'apercevoir, c'était peut-être son dernier jour, et que je ne rencontrerai plus jamais cet étranger dans le cours de ma vie. Robert était seulement fâché que je ne voulusse pas briller davantage aux yeux de sa maîtresse. « Voyons, ce monsieur que tu as rencontré ce matin et qui mêle le snobisme et l'astronomie, raconte-le-lui, je ne me rappelle pas bien. » Et il l'a regardé du coin de l'œil. « Mais, mon petit, il n'y a rien à dire d'autre que ce que tu viens de dire. Tu es assommant. Alors raconte les choses de Françoise aux Champs-Élysées. Cela lui plaira tant. » « Oh oui, Bobet m'a tant parlé de Françoise. » Et en prenant Saint-Loup par le menton, elle redit, par manque d'invention, en attirant ce menton vers la lumière, « Bonjour, vous !» Depuis que les acteurs n'étaient plus exclusivement, pour moi, les dépositaires, en leur diction et leur jeu, d'une vérité artistique, ils m'intéressaient en eux-mêmes. Je m'amusais, croyant avoir devant moi les personnages d'un vieux roman comique, de voir du visage nouveau d'un jeune seigneur qui venait d'entrer dans la salle, l'ingénu écoutait distraitement la déclaration que lui faisait le jeune premier dans la pièce, tandis que celui-ci, dans le feu roulant de sa tirade amoureuse, n'en dirigeait pas moins une œillade enflammée vers une vieille dame assise dans une loge voisine et dont les magnifiques perles l'avaient frappée. Et ainsi, surtout grâce aux renseignements que Saint-Loup me donnait sur la vie privée des artistes, je voyais une autre pièce, muette et expressive, se jouer sous la pièce parlée, laquelle d'ailleurs, quoique médiocre, m'intéressait. Car j'y sentais germer et s'épanouir pour une heure, à la lumière de la rampe, faite de l'agglutinement sur le visage d'un acteur, d'un autre visage de fard et de carton, sur son âme personnelle, des paroles d'un rôle. Ces individualités éphémères et vivaces, que sont les personnages d'une pièce séduisante aussi, qu'on aime, qu'on admire, qu'on plaint, qu'on voudrait retrouver encore, une fois qu'on a quitté le théâtre, mais qui déjà se sont désagrégés en un comédien, qui n'a plus la condition qu'il avait dans la pièce, en un texte, qui ne montre plus le visage du comédien, en une poudre colorée qu'efface le mouchoir, qui sont retournés, en un mot, à des éléments qui n'ont plus rien d'elles, à cause de leur dissolution, consommés sitôt après la fin du spectacle, font, comme celle d'un être aimé, douter de la réalité du moi et méditer sur le mystère de la mort. Un numéro du programme me fut extrêmement pénible. Une jeune femme, que détestait Rachel et plusieurs de ses amis, devait y faire, dans des chansons anciennes, un début sur lequel elle avait fondé toutes ses espérances d'avenir, et celles des siens. Cette jeune femme, qui avait une croupe trop proéminente, presque ridicule, et une voix jolie mais trop menue, encore affaiblie par l'émotion, et qui contrastait avec cette puissante musculature. Rachel avait apposté dans la salle un certain nombre d'amis et d'amies dont le rôle était de décontenancer par leur sarcasme la débutante, qu'on savait timide, de lui faire perdre la tête de façon qu'elle fît un fiasco complet après lequel le directeur ne conclurait pas d'engagement. Dès les premières notes de la malheureuse, quelques spectateurs, recrutés pour cela, se mirent à se montrer son dos en riant. Quelques femmes qui étaient du complot rirent tout haut. Chaque note flûtée augmentait l'hilarité voulue qui tournait au scandale. La malheureuse, qui suait de douleur sous son fard, essaya un instant de lutter, puis jeta autour d'elle sur l'assistance des regards désolés, indignés, qui ne firent que redoubler les huées. L'instinct d'imitation, le désir de se montrer spirituelles et braves, mirent de la partie de jolies actrices qui n'avaient pas été prévenues, mais qui lançaient aux autres des œillades de complicité méchante, se tordaient de rire, avec de violents éclats. Si bien qu'à la fin de la seconde chanson, et bien que le programme en comportât encore 5, le régisseur fit baisser le rideau. Je m'efforçais de ne pas plus penser à cet incident qu'à la souffrance de ma grand-mère, quand mon grand-oncle, pour la taquiner, faisait prendre du cognac à mon grand-père, l'idée de la méchanceté ayant pour moi quelque chose de trop douloureux. Et pourtant, de même que la pitié pour le malheur n'est peut-être pas très exacte, car par l'imagination nous recréons toute une douleur sur laquelle le malheureux obligé de lutter contre elle ne songe pas à s'attendrir, de même la méchanceté n'a probablement pas dans l'âme du méchant cette pure et voluptueuse cruauté qui nous fait si mal à imaginer. La haine l'inspire, la colère lui donne une ardeur, une activité qui n'ont rien de très joyeux. Il faudrait le sadisme pour en extraire du plaisir. Le méchant croit que c'est un méchant qu'il fait souffrir. Rachel s'imaginait certainement que l'actrice qu'elle faisait souffrir était loin d'être intéressante. En tout cas, qu'en la faisant huer, elle-même vengeait le bon goût en se moquant du grotesque et donnait une leçon à une mauvaise camarade. Néanmoins, je préférais ne pas parler de cet incident, puisque je n'avais eu ni le courage ni la puissance de l'empêcher. Il m'eût été trop pénible, en disant du bien de la victime, de faire ressembler aux satisfactions de la cruauté les sentiments qui animaient les bourreaux de cette débutante.